Alors, je suis directrice des affaires culturelles de la ville de La Riche et je suis également directrice et programmatrice de la Pléiade.
D'accord, très bien. Vous faites bien de le préciser parce que, vous voyez, je ne l'avais pas noté dans mes petites fiches. Alors, est-ce que vous pouvez déjà vous présenter, vous, un peu plus, de façon un peu plus complète peut-être, et raconter à nos auditeurs comment vous êtes arrivée un peu à ce poste-là et directrice de cette programmation à la Pléiade?
Alors là, j'entame ma quatrième saison, donc ça fait trois ans donc, que je suis arrivée à La Riche. Donc auparavant, j'avais travaillé pour la ville de Tours, pour le festival Rayon Frais, et j'ai commencé ma carrière dans le secteur culturel en Espagne, au service culturel de l'ambassade de France à Madrid, où j'ai travaillé 8 ans. Voilà. Et à mon retour en France, je me suis installée en Touraine, et finalement les choses se sont faites assez vite, et j'ai la chance donc de travailler à La Riche, où nous avons une très très belle salle de spectacle, donc la Pléiade, où il y a une programmation pluridisciplinaire toute l'année. Donc on travaille en saison culturelle de septembre à juin, et en juin on organise également un festival pluridisciplinaire lui aussi qui s'appelle Itinéraire Bis.
Alors justement, on reviendra un peu sur tout ça et puis sur ce que vous faites à la Pléiade et ce que vous organisez plutôt à la Pléiade tout au long de l'année. Est-ce que vous pouvez me parler maintenant de l'histoire un peu de cette salle? Depuis quand est-elle là, à La Riche? Comment ça se passe un peu à ce niveau-là?
Alors, c'est une salle qui a une longue histoire, puisque c'est la première salle de la métropole, donc à l'époque de l'agglomération, qui est née. Ça a toujours été une salle pluridisciplinaire, et même auparavant encore plus, parce que c'était une salle plus polyvalente, qui était complètement modulable et qui n'accueillait pas que des projets culturels. Donc il y a le premier directeur a marqué toute la région, puisqu'il a fait beaucoup de choses. Donc il s'agissait de Jean-Louis Dumont, qui donc était là à la naissance de la Pléiade, qui a ensuite travaillé à l'espace Malraux, enfin voilà, qui a fait beaucoup beaucoup de choses, qui est aussi au théâtre de l'Antre, enfin jusqu'à cette année. Et donc en 2010, la salle a été entièrement refaite pour devenir un théâtre, donc avec des gradins fixes, et accueillir donc une programmation culturelle et artistique, donc de théâtre, de danse, de musique, jeune public, voilà. Donc depuis 2010, la programmation a évolué, et forcément elle évolue aussi à chaque direction, puisque chaque programmateur a un petit peu voilà, ses esthétiques, et voilà.
Alors, évidemment, vous n'êtes pas seul à diriger tout ça. Est-ce que vous pouvez aussi parler brièvement de l'équipe qui vous accompagne, notamment dans la programmation?
Oui, alors dans la programmation, c'est pas l'équipe de la Pléiade. Après, la Pléiade, c'est une salle municipale. Donc ce sont les élus qui donnent la direction, les grandes lignes de la programmation. Donc moi, je dois répondre à ces lignes-là. Et ensuite, on travaille, donc tout est mis en œuvre avec mon équipe, sans qui je pourrais rien faire. et par ailleurs, je travaille beaucoup avec d'autres structures de la métropole. On co-accueille notamment beaucoup de spectacles, et donc on échange sur des spectacles qu'on co-accueille, c'est-à-dire qu'on partage les dépenses et les recettes, et donc on se met d'accord, on discute et on tombe d'accord sur des spectacles à co-accueillir. Donc c'est le cas par exemple avec le Centre chorégraphique national de Tours, avec le Centre dramatique national de Tours, avec le Petit Faucheux, les moments musicaux de Touraine, voilà. Cette année, là, cette saison, pour la première fois, on va collaborer avec le festival Écoute Voix, qui est organisé par la compagnie Marouchka et le Petit Faucheux. Voilà, donc on s'inscrit dans le cadre de festivals ou aussi avec des partenariats, donc ce qui permet aussi une diversité de la programmation.
Alors, vous l'avez dit, c'est une salle municipale, hein,
oui,
qui est gérée un peu par la municipalité, tout simplement. Est-ce que c'est pas un peu un risque aussi, dans le sens où, en fonction de la couleur politique des personnes qui sont à la tête de la mairie, ça va pas influencer la salle, les partenariats et le bon fonctionnement de tout ça?
Alors si, mais c'est un peu le principe d'une salle municipale, c'est qu'on répond à des attentes politiques. Donc effectivement, bon, à La Riche, c'est une ville qui est restée aux mêmes couleurs politiques depuis... Je vais peut-être pas dire toujours, parce que je connais pas toute l'histoire de la ville, mais en tout cas depuis plus de 30 ans.
Il y a une certaine stabilité, en fait.
Il y a une stabilité, voilà. Après, donc là, le maire actuel, Wilfried Schwartz a été élu en 2014. Donc après, il s'est inscrit vraiment dans une ligne de soutien à la création et avec une politique culturelle forte. Donc ce qui permet à la ville aussi de se démarquer par rapport à d'autres politiques culturelles parfois. Voilà. Donc pour l'instant, en tout cas, il n'y a pas eu de changement à ce niveau-là. La ville a toujours une politique culturelle très forte. Après, effectivement, si demain les choses venaient à changer, il y aurait forcément un impact sur la culture au sein de la ville.
Est-ce qu'on peut maintenant parler de la programmation, évidemment, puisque vous êtes en charge de cette programmation pour cette salle de la Pléiade. Alors, en fouillant un peu sur le site internet, j'ai vu cette phrase, la programmation de la Pléiade s'adresse à tous et propose des artistes venant de la France entière, décidément j'ai du mal à lire, et s'ouvre à l'international. Alors, dans quelle mesure, finalement, la programmation de la Pléiade s'ouvre à l'international? Quel genre de spectacle vous accueillez de l'international?
Alors, par exemple, au mois d'avril, on va avoir un spectacle qui s'appelle Évidence Inconnue. C'est une compagnie belge. Voilà. Après, c'est un spectacle que j'ai vu en France, mais ça, c'est l'avantage des festivals qui accueillent tout type de propositions. Le spectacle qu'on va co-accueillir aussi dans le cadre du festival Écoute Voir, il s'agit d'une artiste belge également. La semaine dernière, on avait un spectacle de cirque contemporain qui s'appelle Tesseract. Alors, la compagnie est basée en France, mais l'artiste, lui, est espagnol et vit en Espagne. Voilà. Donc, après, effectivement, il y a des propositions d'artistes étrangers et puis après effectivement qui viennent de partout en France.
Mais en tout cas, ces artistes étrangers restent francophones en tout cas, non? Ou pas spécialement?
Alors ça dépend. Par exemple, dans le cadre du cirque, il n'y a pas de texte. Donc, alors il parle un peu français quoi, parce que ça fait des années qu'il travaille en France. Après, il n'a pas non plus un français très fluide. Je ne sais pas s'il serait capable de faire un spectacle en français. Après, au niveau de, les Belges sont francophones, donc effectivement, ça pose aucun problème de les accueillir sur des spectacles en France.
Comment vous décidez de cette programmation? Est-ce que c'est une décision qui se fait de façon collégiale ou c'est vous-même qui l'imposez? Comment ça se passe un peu?
Je fais des propositions qui ensuite sont soumises à validation à l'adjoint à la culture et puis ensuite au maire et puis ça passe également en bureau municipal. Donc je dois présenter la programmation à l'ensemble des élus.
Est-ce que le public a le droit aussi de donner son point de vue sur la programmation? Est-ce qu'il influe la programmation de la Pléiade ou pas vraiment?
Alors,
parce qu'étant donné que c'est une salle municipale, on peut se poser cette question-là.
Bien sûr. Après, on essaie de trouver un équilibre, c'est-à-dire que on n'est pas, dans une logique de demande, mais plutôt d'offre. Mais après, il faut aussi répondre à des attentes. C'est-à-dire que la ligne qui est donnée à la Pléiade, c'est aussi d'être une salle accessible. C'est-à-dire que les propositions puissent être accessibles, justement, du plus grand nombre. Donc, en gros, on fait des propositions qui, d'après nous, pourra toucher un grand nombre de à la fois de la Richois, mais au-delà de public en général.
Alors maintenant, est-ce qu'on peut rentrer un peu dans le détail de cette programmation? Bon, on parlera tout à l'heure des prochains événements, etc. Mais d'une façon générale, quel type de spectacle vous proposez? Des spectacles très hétéroclites, il y a de tout finalement à la Pléiade. Est-ce que vous pouvez en parler un peu de cette diversité?
Alors, c'est une diversité, effectivement, puisqu'on accueille toutes sortes de disciplines, puisqu'il y a du théâtre, de la musique, de la danse, du jeune public et même des formes que j'appelle parfois inclassables, c'est-à-dire qu'elles ne rentrent pas dans des cases. Ça va être le cas du Belge dont je vous parlais tout à l'heure pour le spectacle Évidence Inconnue. C'est un mélange de magie nouvelle et de mentalisme. Et à la fois, c'est un vrai spectacle scénographié avec de la musique en live. Et c'est une expérience totale qui est très bluffante, c'est-à-dire qu'il y a des expériences qui sont menées sur scène. Et on ne sait pas si c'est le fruit du hasard ou vraiment des coïncidences ou voilà. la vie qui nous emmène à un endroit. Bon, bien évidemment, c'est un spectacle, mais c'est vraiment impressionnant. Donc ça rentre pas forcément dans une case en particulier. Le spectacle, par exemple, de l'autre Belge, pareil, Meet Warlop, qu'on accueille au mois de janvier dans le cadre des coups de voir, on l'appelle même un OSNI, c'est-à-dire un objet scénique non identifié. C'est-à-dire que ça mélange à la fois, c'est une performance, un concert du théâtre des arts plastiques. Enfin voilà, ça mélange énormément de choses. Et puis à côté de ça, oui, j'essaye aussi parfois de programmer en dehors de la Pléiade, donc hors les murs. On va avoir un spectacle à la médiathèque pour l'inscrire dans le cadre de ces samedis numériques. C'est un spectacle qui porte sur le téléphone portable et en gros à quel point ça peut être intrusif et à quel point on peut notre vie est rendue publique juste à travers un téléphone. Donc c'est pareil, c'est une expérience qui est menée avec une compagnie qui fait participer le public avec son téléphone. Donc pour une fois, on demande à tout le monde de bien garder son téléphone allumé,
ce qui est rare dans une
voilà, puisque pendant ce spectacle un peu conférence expérience, on reçoit des textos et on interagit comme ça. Enfin voilà, et c'est pareil, c'est assez bluffant ce qu'on peut découvrir dans ce cadre-là. Voilà, donc il y a vraiment toutes sortes de spectacles. Il y a de la marionnette aussi, enfin là pour le coup en jeune public, mais
C'est aussi une façon de surprendre aussi ses auditeurs, j'allais dire. Non, c'est son public,
oui,
plutôt.
Oui, c'est ça. Bah, c'est proposer aussi des choses différentes, puisque c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de salles. Donc après, on essaye tous les uns et les autres de proposer des spectacles différents ou de travailler ensemble. En tout cas, il y a une très bonne concertation au sein de la métropole et je pense qu'on travaille bien tous ensemble.
Alors dans la même veine, quelle place vous donnez à la jeunesse ou en tout cas à des spectacles ou à des événements qui sont plutôt destinés au jeune public?
Alors à la
ou pas d'ailleurs. Hein,
oui, non mais c'est une bonne question parce qu'à la Riche c'est vraiment très important, c'est-à-dire que on a un gros travail avec les écoles de la maternelle jusqu'au CM2 puisque il y a pas de collège ni de lycée à la Riche, ce qui nous empêche pas de travailler par ailleurs avec le collège Lamartine, mais en tout cas pour la maternelle et l'école élémentaire, on permet à chaque élève de voir deux spectacles de la saison gratuitement, c'est-à-dire que c'est la ville qui prend vraiment tout en charge. Donc ça représente un nombre assez conséquent de séances scolaires organisées pour eux.
Oui, voilà, dans le cadre scolaire, du coup.
Dans le cadre scolaire, okay. Tout à fait. Et après, il y a des séances tout public également pour le public qui souhaite venir, et parfois même les scolaires qui reviennent, parce qu'ils ont adoré le spectacle, donc ils veulent revenir avec leurs parents. Donc voilà, après, on essaye aussi de développer des ateliers d'artistes qui interviennent au sein de l'école. Il y a même des formations des enseignants pour les accompagner dans une démarche artistique ou autour des spectacles. Voilà. Et puis en dehors de ça, il y a quand même en général entre 4 et 5 propositions jeunes publics dans la saison, donc c'est assez conséquent en tout cas.
Justement, cette saison, parlons-en, est-ce que vous avez une espèce de ligne éditoriale qui guide un peu votre saison en termes de spectacle? Est-ce que vous vous mettez d'accord sur un sujet qui va un peu cadrer la saison ou pas?
Alors, il y a pas de thème, mais par contre, c'est vrai que cette saison, il y a un fil conducteur qui est celui des cultures urbaines, parce qu'on a démarré avec la 20e édition des Rencontres de danse urbaine. C'est un événement qui a été donc créé par La Riche et Jouer les Tours. Ensuite, la ville de Tours nous a rejoint, donc c'était quand même un événement phare en début de saison. C'est aussi pour ça qu'on a demandé à un graffeur, Monsieur Plume, de porter les couleurs de la Pléiade sur toute la saison, c'est-à-dire qu'on a choisi une de ses œuvres pour la communication, donc qui est sur la plaquette de la Pléiade et qu'on a ensuite décliné sur tous nos supports. Et on a travaillé aussi avec la médiathèque, puisqu'elle a des œuvres à l'extérieur reproduites en très grand format, donc on a choisi aussi une œuvre du graffeur Incognito. Et puis, ça va se poursuivre dans le cadre du festival Itinéraire Bis, où on met en place un projet participatif avec les habitants en amont du festival, et pour qu'il y ait ensuite une restitution au moment du festival. Et là, on va travailler avec, normalement, Monsieur Plume sur ce projet-là, avec les habitants.
Alors, avant de rentrer un peu dans le détail des événements que vous allez faire et proposer, je vous ai concocté un petit quiz. Ça, je ne vous l'ai pas dit. Un petit quiz. Je mets le jingle et je vous pose quelques petites questions. Alors, il faut que je vous précise, ce n'est pas un quiz sur la culture ou quoi. J'ai décidé de changer un peu, de faire un quiz spécial Noël. Voilà, tout simplement, un petit quiz comme ça pour voir. C'est parti. Parce que la culture, c'est aussi Noël. Alors, je vais vous donner, enfin, je vais vous dire des phrases et vous allez essayer de deviner dans quel pays se passent ces traditions de Noël. Mmh. Ok. Alors, première petite devinette. Dans ce pays, on lève notre verre de Glögg, le vin chaud épicé, à l'honneur durant toutes les festivités. Mais surtout, il faut faire un petit détour au village du Père Noël. Selon les légendes, ce serait au cœur de la Laponie mythique. Donc, de quel pays est-ce que je parle ? La Laponie.
Mm-hmm.
Ah ah ! C'est là où habite le Père Noël. Hein.
Tout à fait. Je...
Il n'y a pas de piège pour le moment.
Non, non, mais...
C'est un pays du Nord.
Oui, j'étais par là, mais alors après, j'hésite.
En fait, c'est la Finlande.
J'hésitais entre la Norvège et la Finlande, mais voilà.
C'est la Finlande, effectivement, donc domicile du Père Noël. Dans ce pays, du 16 au 24 décembre, dans les villages, on organise la posada ou posada. Par petits groupes, les villageois se promènent de maison en maison pour demander l'hospitalité. C'est une façon de recréer le voyage de Joseph et de Marie, de Nazareth à Bethléem. De quel pays est-ce que je parle ?
C'est un pays hispanophone.
Oui, très juste.
Alors après, je pense pas que ce soit l'Espagne.
Non, c'est pas l'Espagne. C'est en Amérique centrale.
Ouais.
Du Nord central.
Si c'est... Ouais. C'est le Mexique, si
oui.
Sinon, ouais.
Exactement, c'est le Mexique. Donc une tradition assez originale. Hein. C'est vrai qu'on n'a pas, en tant qu'occidentaux, en tout cas, on n'a pas l'habitude d'entendre parler de ce genre de tradition. Pour Noël, hein, évidemment. Dans ce pays, chaque matin, pendant les 9 jours précédant Noël, les croyants célèbrent la messe du coq, appelée ainsi parce qu'elle débute à 4h du matin. Chaque soir, on allume devant les maisons le parole, une lanterne en forme d'étoile. De quel pays est-ce que je parle ? Ça, c'est plus dur, ça. Ça, c'est vraiment assez dur, mais c'est, je trouvais ça assez...
C'est pas le Portugal assez...
Non. C'est un pays d'Asie, enfin, d'Océanie même, c'est les Philippines. Les Philippines qui ont cette tradition à Noël, de se lever si tôt pour célébrer la messe.
D'accord.
De Noël. Dans ce pays, on laisse comme collation au Père Noël une Guinness, un verre de whisky ou du pâté de viande. Quel pays ?
L'Irlande.
Exactement, l'Irlande, tout simplement. Bon, c'est peut-être à prendre avec précaution, mais en tout cas, c'est apparemment la tradition à Noël là-bas, dans ce pays-là. Dans ce pays, selon les régions et croyances, le 25 décembre, les cadeaux seront distribués par le Père Noël, Bobo Natale ou Gezi Bambino. Le 6 janvier, jour de la fête des rois, la sorcière Befana prend le relais et distribue des friandises aux enfants selon leur comportement de l'année. Quel pays ?
En Italie ?
Exactement, l'Italie. Voilà, tout simplement. Et ben c'est la fin de ce petit quiz, c'était spécial Noël, normalement c'est vrai que je fais un quiz qui a un rapport avec l'invité, mais je me suis dit on va changer,
là, c'est
et puisque
rapport,
Noël approche, voilà,
avec la période.
Voilà, et puis avec la culture aussi, c'est aussi culturel, toutes ces traditions. Alors maintenant on va revenir à notre sujet initial, c'est-à-dire la programmation de la Pléiade à la Riche. Est-ce que vous pouvez me parler brièvement du dernier événement qui a eu lieu, Ego le Cachalot et les Petits Bulots ?
Alors Ego le Cachalot et les Petits Bulots, c'était un concert jeune public qu'on a programmé dans le cadre de notre programmation, mais aussi de l'Arbre de Noël, c'est-à-dire qu'il y avait tous les agents de la ville qui étaient invités par le COS, donc le Comité des œuvres sociales de la ville. Donc ils ont pu profiter de ce concert un dimanche après-midi. On était complet puisqu'avec le public, ça a bien fonctionné. Et puis on avait aussi le lendemain matin et le lendemain après-midi des séances scolaires pour les élèves de la Riche.
Et alors, du coup, on peut en venir aux prochains événements, peut-être aussi pour le début de l'année 2018. Je vous vois avec votre fascicule. Est-ce que vous pouvez nous préciser un peu tout ça, ce qui va se passer maintenant?
Alors là, pour la fin de l'année, il y a la semaine prochaine, il y a la compagnie, même si ce n'est pas inscrit dans la programmation de la Pléiade, c'est inscrit dans nos projets partenaires. Il y a la compagnie Cano Lopez qui vient la semaine prochaine présenter une de ses créations.
Hansel et Gretel, c'est ça?
Tout à fait, voilà. Et puis après, la Pléiade va fermer ses portes pendant les fêtes et on reviendra dans le cadre du festival dont je parlais tout à l'heure, donc le festival Écoute-Voir, organisé par la compagnie Marouchka, dirigée par Francis Plisson et le Petit Faucheux. Donc pour la première fois, on va collaborer en co-accueillant une artiste belge, Meet Warlop, qui présentera donc une forme très spéciale, donc qui mélange art plastique, théâtre et musique. Donc c'est un concert, une performance théâtrale, donc quelque chose de complètement déjanté.
Un osni, comme un vous osni, avez précisé tout
voilà.
à l'heure.
Donc ça s'appelle Fruits of Labor et donc on fera l'ouverture du festival ce soir-là.
Et alors après, les prochaines dates après ça?
Alors les prochaines dates, ce sera ensuite une pièce de théâtre avec Le Mariage de Gombrowicz, donc une compagnie de la région centre, le collectif Mind the Gap, donc qui est en général des mises en scène très déjantées. C'est une création, c'est-à-dire que là, ça a été créé il n'y a pas très longtemps. Donc c'était aussi leur faire confiance pour les accueillir et c'est une forme de soutien aussi à la création. Et c'est une passerelle avec le Centre Dramatique National de Tours. C'est-à-dire que voilà, il nous appuie dans cette programmation-là, même si on ne co-accueille pas ensemble le spectacle.
Alors, est-ce qu'on peut juste brièvement revenir à ce festival Écoute-Voir? Qu'est-ce qui vous a motivé, vous, la Pléiade, de co... Alors, c'est pas co-organiser, c'est co-accueillir plutôt ce festival. Qu'est-ce qui vous a motivé pour ça?
Bah, ça vient aussi dans une... Enfin, on essaye de faire circuler le public, c'est-à-dire que, en gros, le festival maintenant s'élargit dans le sens où il travaille aussi avec la chapelle Sainte-Anne, qui est à cheval sur Tours et La Riche. Il travaille dans plusieurs structures de la métropole, et c'est vrai qu'ils sont venus me voir en me demandant si ça m'intéressait de participer. Et comme on le fait avec d'autres structures, ça me semblait tout à fait avoir sa place au sein de la programmation de la salle. Et puis on aime beaucoup travailler aussi en partenariat et tout le monde s'y retrouve puisque il y a plus de public, on propose des choses, ça nous permet de proposer des choses différentes aussi et sur un festival qui est assez atypique.
Alors, vous faites aussi, vous organisez, d'ailleurs, il y a une séance ce soir, si je ne me trompe pas, ou alors c'était cet après-midi, vous allez me dire, des séances de cinéma
oui.
à la Pléiade, et ça en fait c'est toute l'année. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus? Vous
oui.
le faites en partenariat avec Cineoff, il faut aussi le préciser. Est-ce que vous pouvez compléter un peu tout ça?
Alors, on n'est pas. Il y a de nombreuses salles qui font ça dans la métropole et au-delà. En fait, c'est Cineoff qui vient et qui propose. En fait, il nous propose chaque mois trois films qu'on choisit. Et voilà, et on les propose. Alors à La Riche, c'est en après-midi, une fois par mois, donc pour tout public. Et on a aussi des séances, enfin des films jeunes publics, soit pendant les vacances scolaires ou le mercredi. Donc voilà, donc nous, on les accueille. Et puis, et ça permet au public à La Riche d'avoir une offre de cinéma.
Et alors ça, c'est tous les mardis, mercredis, c'est ça?
Alors c'est une fois par mois, le mardi à 15h, et ensuite soit pendant les vacances scolaires, soit le mercredi pour le jeune public.
Et alors la prochaine séance, ça sera le mardi 16 janvier, non?
C'est ça,
oui,
ouais.
Bah voilà. Alors du coup, vous faites aussi du jeune public là, par rapport à ce cinéma-là,
oui.
aux propositions. Est-ce que maintenant, vous pouvez évoquer peut-être... enfin, voir un peu dans le futur et nous dire ce qui va se passer un peu en milieu d'année 2018. Est-ce que c'est des choses que vous avez déjà prévues? Est-ce que ça fait déjà partie de la programmation ou c'est encore à définir?
Quand vous parlez de quelle période? De là, des mois à venir?
Des mois à venir, on en a parlé un peu, mais après ce qu'on a évoqué.
Alors, c'est en pleine construction.
Oui.
C'est-à-dire qu'en ce moment, je travaille à la fois sur la programmation du festival Itinéraire Bis, qui aura lieu au mois de juin, et aussi sur toute la saison prochaine. Donc là, ça peut être de... Ça, je vais jusqu'à juin 2019. C'est-à-dire que je suis en train de travailler sur tous les spectacles qu'on accueillera sur la saison culturelle prochaine.
Oui, parce que grosso modo, vous, vous avez 6 mois d'avance, ou en tout cas 6 mois de planifié, et puis après, c'est à rajouter en fonction de...
C'est-à-dire qu'en gros, chaque année, à peu près fin mars, début avril, j'ai bouclé toute la programmation de la saison d'après.
D'accord.
De septembre à juin.
Donc là, théoriquement, on en est où, là ?
Bah là, on en est encore... on en est...
En construction.
Voilà, c'est ça.
Est-ce que vous avez déjà une idée des spectacles ? Est-ce que... enfin, comment vous faites pour aller chercher un peu les artistes et quelles pistes vous étudiez pour la programmation ?
Alors, bah, c'est déjà se déplacer, aller par exemple sur des festivals, voir un maximum de propositions. Après, c'est aussi quand on a parfois des idées un peu en tête, c'est aller chercher le type de spectacle qui peut correspondre à ce qu'on recherche. Donc, c'est faire du repérage et ensuite se déplacer pour aller les voir et donc confirmer ou non le fait, enfin l'envie de programmer tel ou tel spectacle. Donc voilà, ça passe par des déplacements et puis après parfois dans le cadre de co-accueil, on n'a pas forcément la possibilité de voir, mais après c'est une question de confiance et c'est aussi l'accueil de création. Donc là, les spectacles sont pas créés. Donc c'est en rencontrant les compagnies, donc les artistes me sollicitent, viennent me présenter leur projet, et ensuite, je vois si le projet m'intéresse, et je décide de les programmer avant même que le spectacle soit créé.
Est-ce que vous pouvez nous rappeler à nos auditeurs où est-ce qu'on peut retrouver un peu toutes ces informations, le site internet j'imagine, est-ce que vous pouvez nous rafraîchir la mémoire par rapport à ça?
Oui, alors sur le site de la Ville de la Riche, rubrique Pléiade, il y a toute la programmation en ligne, il y a aussi une billetterie en ligne, donc il y a la possibilité d'acheter ses places sur le site, sur la billetterie, et même un abonnement qui est assez avantageux, qui est encore valable, puisque pour un abonnement de 40 €, on peut avoir 4 spectacles, donc ce qui ramène le spectacle à 10 €, donc c'est encore valable entre janvier et juin. Et puis ensuite, on a une page Facebook, donc on peut suivre toute l'actualité de la salle, avoir des retours sur tout ce qui s'est passé ou voir tout ce qu'il y a à venir. Voilà, et après on vous accueille aussi du mardi au vendredi de 14h à 18h, et par téléphone, on peut acheter ses places aussi à distance, et voilà. Et on est là pour répondre à vos questions.